Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église, où il va être question de cinéma aujourd'hui, comme c'est le cas chaque mois dans cette émission. Deux films au sommaire. Le premier est à l'affiche du cinéma L'ABC à Toulouse. Il nous vient d'Outre-Manche et il a pour titre Plus fort que moi. C'est le sixième long-métrage du réalisateur britannique Kirk Jones. Le second a été tourné en 1962 par Robert Bresson. Il s'agit du Procès de Jeanne d'Arc, un des chefs-d'œuvre du grand cinéaste français. Et comme de coutume pour le grand écran de Vivante Église, j'ai invité mes deux habituels complices cinéphiles, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Coteaux Païs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Bienvenue à tous les deux. Je précise tout de suite que le Ciné-Parole que vous animez ensemble à l'ABC mardi prochain, le 28 avril à 14h30, est consacré justement à Plus fort que moi, le film dont nous allons parler maintenant. J'ai indiqué que c'était le sixième long-métrage de Kirk Jones. Mais il faut dire, Louis-Marie, qu'il n'avait rien tourné depuis 2016, ce réalisateur britannique.
Oui, il avait tourné en 2016 le deuxième volet d'une franchise intitulée « Mariage à la grecque ».
Bon, c'est pas yaourt à la grecque.
Non, c'est pas yaourt, mais c'est une comédie qui met en scène les péripéties d'un couple qui se marie. C'est ce genre de comédie matrimoniale. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui a parfois un certain succès. Je n'ai pas à souvenir que celui-ci, de film en tout cas, ait rencontré le succès escompté. Sinon, on retiendra de lui surtout Nanny McPhee en 2005 et Ce qui vous attend si vous attendez un enfant, qu'il a tourné un peu plus tard en 2012.
Cinéaste qui a 61 ans, donc vieux routier de la pellicule, j'allais dire, vieux routier de la caméra. Ce qu'il faut aussi préciser d'emblée, c'est que ce film est inspiré d'une histoire vraie, celle qu'a vécue John Davidson, un Écossais atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Alors je vais vous laisser nous expliquer ce que c'est le syndrome de Gilles de la Tourette, parce que c'est important de le savoir tout de même.
Oui. Paul est un spécialiste, je le vois. Oui, est-ce qu'il sait quelques tics qu'il se maîtrise?
Vous n'entendez pas que Paul est atteint du syndrome de Gilles?
Non, pas du tout. Non.
Pas pour l'instant, mais
pas
bon,
encore.
Je touche du
ça,
bois.
Malheureusement, ça se déclare tôt hein, quand même.
Oui. Hein. Oui, ça se déclare de bonne heure, comme on le découvrira dans le film, parce que c'est un des grands mérites de ce film, de faire avec un parti pris sous l'angle de la comédie, autour de cette maladie ou de ce syndrome, les deux mots se disent, de Gilles de la Tourette. Et le titre du film en français reprend très différemment le titre anglais, mais est intéressant, c'est « Malgré moi », c'est-à-dire que c'est une maladie qui fait que ceux qui en sont atteints sont bourrés de tics.
De tics vraiment irrépressibles. Hein.
Alors, oraux, physiques, voilà, et irrépressibles. On le voit dans plusieurs scènes du film. Alors, des fois, ça donne quelque chose d'amusant, de drôle. Oui. Et c'était un pari risqué, c'est-à-dire on ne se moque pas des malades. Quoi. Enfin, mais le film se situe dans une juste distance qui reconnaît tous les ennuis que cause cette maladie. La destruction des relations, de l'estime de soi d'abord, parce que ces personnes sont objets de
moquerie,
on dit « mais c'est un crétin ».
Oui,
voilà.
Fou.
Ça déclenche de la violence, y compris dans le cadre de l'école.
Dès l'école, c'est là que ça commence.
C'est là que ça commence.
La vie en société.
Ça fait exploser la famille, le père s'en va, la mère déprime. Et il y a tout un chemin qui se fait au cours du film. On ne va pas le raconter maintenant,
alors,
on va en reparler.
Je vais passer un petit bout de bande-annonce, juste précision. Donc, Georges Gilles de la Tourette, c'est un neurologue français, hein, son nom l'indique bien. Né en 1857, mort en 1904. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui hein, la description de cette maladie et des symptômes qui sont associés, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, ça va de la dépression à l'anxiété, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui les TDAH. Et puis les TOC, on appelle les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, c'est ce qui explique aussi les gestes incontrôlés. Et donc aussi, troubles du spectre de l'autisme, donc on a un peu tous les ingrédients pour être complètement asocial,
inemployable
et
impossible.
Et une vie impossible. Et pour l'entourage, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. On va le voir d'ailleurs effectivement dans ce film. On ne sait pas, les origines de la maladie ne sont pas connues et les traitements, c'est très compliqué. À l'époque, on donnait surtout des neuroleptiques. Hein. Mmh. Bon, on ne va pas en dire plus. Le film est évidemment très émouvant puisqu'on voit ça comme vous le dites, à la juste distance. Et ça nous met aussi en situation de nous dire, ben moi, quelle distance je pourrais trouver si j'étais confronté à quelqu'un comme ça, pour comprendre de quoi il retourne et vous plonger un peu dans l'atmosphère de Plus fort que moi. Nous allons écouter sa bande-annonce. Ensuite, nous partagerons nos impressions respectives sur ce film qui, je pense, ne laisse personne indifférent.
Je jure devant Dieu Tout-Puissant
de dire toute la vérité.
De dire toute la vérité. Gros connard!
John.
C'est comme s'il y avait une impulsion dans mon cerveau qui me fait dire des trucs que je devrais pas. Ça s'appelle syndrome de Gilles de la Tourette.
Entre, mon grand. Je m'appelle Dottie.
Tu veux crever d'un cancer? Excusez-moi. Désolé, tout le monde.
Des excuses, on n'en veut pas ici.
C'était un tic?
Bah oui, à ton avis.
Et ça, c'est moi qui fais le con.
Quand t'es occupé, tu vas beaucoup mieux. Ce serait bien que t'aies un boulot.
Je t'aurais jamais pris.
On a besoin de 200 chaises pour un spectacle pour enfants. Mmh. Ou une représentation scolaire.
C'est pédophile. Désolé, c'était un tic. Excuse-moi, mon pote, je suis désolé.
J'en ai marre de tout ça.
Ils ont décidé d'aller en justice.
Le problème, c'est que nous, on n'en connaît pas grand-chose. Et là, tu pourras les éduquer.
Ce syndrome n'est pas reconnu par les autorités médicales.
Je veux qu'on me dise qui simulerait cette maladie.
Hé, hey, moi ah. J'emmerde la reine.
La bande-annonce de Plus fort que moi, sixième long-métrage de Kirk Jones, actuellement à l'affiche dans les salles de notre région et entre autres à l'ABC à Toulouse. Bon, je crois qu'on a un bon aperçu ici du propos général du film et de ce que vit son personnage principal, John Davidson. Paul va nous raconter maintenant ce qui s'y passe un peu plus en détail et nous parler des autres personnages qu'on y croise. Et puis chacun dira ce qu'il a pensé évidemment de ce film.
Alors dans le film, on assiste à la montée progressive de la maladie.
Alors, il y a un flashback un peu, parce qu'on voit, ça commence par la fin.
Ça commence par la fin, donc on est tout de suite au courant.
On se doute que ça va plutôt bien se finir, mais au départ, on voit un adolescent tout à fait normal, même plutôt brillant.
Oui, brillant.
Qui a une famille normale, son père, sa mère avec lui, ses sœurs. Oui. Bon footballeur.
Excellent
bon
footballeur.
On va esquisser un avenir peut-être de footballeur professionnel.
Absolument.
Et puis, vont arriver les premiers symptômes de la maladie.
Voilà, les premiers symptômes, c'est-à-dire qu'il laisse passer des ballons, il a des tics tout le temps.
Ses paroles.
Et puis des paroles qu'il dépasse.
Le premier à pas comprendre, c'est lui, ce qui lui arrive.
Oui, il ne sait pas. Et à l'époque de la préadolescence et adolescence...
Nous sommes en 83, au début du film, 1983.
C'est complètement déstructurant pour un jeune qui a déjà, normalement, sans maladie,
c'est la
beaucoup de problèmes
mal-être.
À résoudre. Eh bien, lui, c'est au cube, puisque il ne sait pas d'où ça lui vient, il ne sait pas. Et il voit qu'autour de lui, pour lui et autour de lui, ça dévaste tout le monde. Le père n'en peut plus, il s'en va. La mère déprime.
Elle
n'en peut plus.
À l'école, il a des problèmes terribles avec ses camarades, mais aussi avec la hiérarchie.
Avec
la direction.
Hiérarchie, oui.
C'est-à-dire, ce qui lui arrive, les gestes qu'il ne contrôle pas, par exemple, vous êtes en train de manger avec lui et il vous crache à la figure la nourriture qu'il a dans la bouche.
Voilà. Où il dit au directeur du collège « con ».
Oui.
Voilà. Bon, alors évidemment, dans un collège...
plutôt strict.
Très strict.
En Écosse, à l'époque.
Alors, c'est la punition physique.
Un cravache dans la main.
Voilà. Et ça dure comme ça. Et il y a une césure dans le film. On le retrouve à l'âge adulte, enfin, après l'adolescence.
Important de préciser qu'il fait une tentative de suicide quand même à un moment donné en se laissant couler dans une rivière.
Oui.
Et c'est là que ses parents finissent par comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui se passe.
Qu'il y a un problème.
Ouais.
Et alors, dans son itinéraire, il a la chance, grâce à un ancien copain de collège, un ami d'enfance, d'être présenté à la mère de ce copain,
Dottie,
jouée par Maxime Peek, qui, elle, se croit condamnée. Oui, c'est ça, elle a des bonnes raisons de le croire, qu'elle a un cancer et qu'elle n'a plus pour longtemps à vivre.
Cancer du foie, c'est
mais
bon à vivre.
Elle est infirmière psychiatrique et elle comprend tout de suite ce qui se passe. Et elle va être sa mère adoptive, d'une certaine façon, parce qu'elle, elle comprend ce qu'il joue. Alors, elle lui dit, arrête de t'excuser, il n'y a pas d'excuse ici.
On sait ce que tu as, nous.
On sait ce que tu as, et ce n'est pas grave du tout. Mais dans la vie sociale, surtout face à des gens qu'il ne le connaissent pas ou qu'il ne connaît pas, il dit des insanités. Il traite une jeune femme de salope. Qui, évidemment, alerte ses copains, et ça lui vaut d'être tabassé gravement.
Un coup de barre de fer.
Un coup de barre de fer. Hein, et on le retrouve à l'hôpital avec une minerve et tout ça. Bon. Ça le handicape complètement aussi, parce qu'il a envie de pouvoir avoir une vie normale, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir un appartement. Et Doty l'accompagne dans ses démarches. Elle lui trouve un travail. Alors, il y a des scènes magnifiques. Quelqu'un qui est appariteur dans un espace de spectacle et tout ça, ou de collège, il dit, bon, alors, il y a des enfants. Il dit tout de suite, je suis pédophile. Non, pardon, c'est un tic, voilà.
Et il s'appelle Tommy, il a été prévenu par Doty.
Oui, de la situation.
Voilà, il n'est pas étonné par ce qui se passe.
Et il ne s'émeut pas du tout de ses injures, de ses gestes déplacés. Mais par contre... Il fait son travail avec une rigueur et une précision. Il aligne des chaises, il faut qu'elles soient toutes bien alignées, autrement ça ne va pas marcher.
Ça, c'est assez typique des autistes, justement, voilà. Louis-Marie connaît le sujet. Ouais.
Donc, le film montre l'évolution au cours de son existence de la façon dont il peut récupérer un peu d'autonomie. Des fois, ça se passe très mal. Quand on lui propose un appartement, tout de suite, il se fait arnaquer... par des vendeurs de drogue pour savoir comment ça va se passer avec lui. Il se fait arrêter par la police. Et puis, en fait, la drogue, c'était du sucre.
Heureusement, d'ailleurs, pour lui.
Heureusement pour lui. Et alors, il doit passer au tribunal. Et alors là, il y a des scènes tout à fait surprenantes où on voit le juge avec sa perruque.
Britannique.
Britannique, ouais, comme il convient, se faire traiter de con, etc. Et alors, pour lui, c'est pas possible.
Il lui demande de sortir de la salle.
Oui, il lui demande de sortir de la salle. Et à ce moment-là, intervient
Tommy,
qui l'a accompagné et qui lui explique ce qu'est la maladie.
Oui, parce qu'en fait, le pauvre John, beaucoup de gens soupçonnent qu'il simule en fait sa maladie.
Oui, oui, oui.
Que c'est un tordu, un pervers, une sorte de pervers.
Ah ben oui, complètement.
Qui se fait
oui.
passer pour malade, mais pour tranquillement pouvoir insulter les gens.
Oui, pour faire
les
tout
frapper,
ce qu'il veut. Voilà.
Et vivre au crochet de la société.
Alors, ce qui est très intéressant dans ce film, et c'était audacieux de le faire sous l'angle de la comédie. C'est-à-dire qu'on ne se moque pas du malade, parce qu'on voit bien tout ce que ça vient bousculer chez lui, autour de lui. Mais en même temps, il y a des moments où on ne peut pas ne pas rire, parce que.
Les situations sont cocasses. C'est toujours risqué de mettre en scène un film qui parle d'une maladie sans tomber dans le pathos.
Oui. D'autant plus qu'on sait d'emblée que c'est une histoire vraie. Ça nous est dit. On sait que c'est une histoire vraie.
Ou dans la leçon de morale. C'est ça le plus gros problème. Et ce n'est pas toujours très réussi. En France, il y en a eu. Hein, oui. Mais ce n'est pas toujours très réussi. Alors, il se trouve que ça doit être une spécialité britannique où, dans ce genre de film, eux, par contre, excellent. La comédie sociale, on pense évidemment à Ken Loach, qui, dans sa carrière, en a filmé beaucoup, grave, terrible, plus légère. Elles sont rarement très légères, quand même, les chroniques sociales de Ken Loach. Néanmoins, c'est là où on remarque, je sais pas, il doit y avoir une façon de voir, d'appréhender les choses, un certain savoir-faire. À noter, d'ailleurs, que dans le film, il y a Peter Mullan qui joue le rôle de Tommy. Et Peter Mullan a joué plusieurs fois pour Ken Loach. D'ailleurs, dans un de ses films, il a eu My Name is Joe. Il a obtenu le prix d'interprétation à Cannes, Peter Mullan, qu'on voit donc dans ce film, qui a un rôle capital, puisque c'est lui qui va faire rentrer John, son personnage, dans le milieu du travail et lui faire confiance.
Et lui faire confiance.
Oui.
Alors, il le dira d'ailleurs au cours du...
Et il le dit remarquablement bien pendant le procès.
Parmi les choses terribles et très dures de ce film, c'est le moment où John va quitter sa mère, qui est la seule à l'avoir accompagnée. Le père est parti depuis longtemps.
Il vit avec sa mère.
Il ne travaille pas, évidemment. Il vit avec sa mère. Elle supporte ça depuis près de 30 ans. Et donc, il la quitte pour aller vivre chez Doty.
Oui.
qui est la mère de son copain. Dont j'oublie le nom, là.
En fait, il vit dans la famille, pas chez Doty.
Enfin, oui, chez Doty, pardon. Oui. Il y a le mari de Doty.
Il y a
c'est une famille. Il est dans une famille qu'il accepte comme il est, sous l'impulsion de Doty, parce que je ne suis pas certain que les autres auraient accepté ça.
Oui, ils n'étaient pas au départ.
Ça, et c'est elle qui va l'aider à trouver un travail, tout ça. Mais donc, la mère se retrouve coupée de son pull. La pauvre, elle n'en peut plus, de toute façon.
Oui. Elle déprime.
Il y aura des retrouvailles à la fin, hein, mais il faut imaginer ce que ça peut être de vivre avec quelqu'un comme ça. Ce qu'on a entendu là, dans la bande-annonce, quelqu'un qui, toutes les 10 minutes, va vous dire « Excusez-moi, c'est un tic », alors qu'il vient ou de vous insulter ou de vous frapper, parce qu'en plus...
Et oui, il y a des gestes violents.
C'est gestes à contrôler, fait qu'il peut frapper.
Oui.
À un moment, il frappe d'ailleurs Doty. Oui. Elle dit « Ah, mais c'est pas grave, j'étais du mauvais côté », parce que ça part toujours de la main droite, évidemment. Donc, il ne faut pas se tenir à sa droite. Ce que j'ai bien aussi dans ce film, c'est qu'il y a toute la toile de fond, et ça, vous, Louis-Marie, vous connaissez l'Écosse. Hein.
Oui.
J'ai connu l'Écosse justement en 83, et je suis retourné dans les années 80. On voit bien toute la toile de fond, y compris la bande sonore d'ailleurs,
les groupes de rock de
l'époque. Et ça, c'est très très bien reconstitué, je trouve.
Oui, et l'ambiance sociale de l'époque.
Ouais, la pauvreté, parce que c'était très pauvre l'Écosse à l'époque.
Ils ont pas beaucoup roulé sur l'or pendant longtemps, les Écossais. Et on le voit bien, en particulier dans la première tentative de John de vivre dans son appartement. Et Doty se rend compte que c'était une erreur de le laisser comme ça. Parce que, étant donné sa volonté de s'intégrer, et de toute façon, naturellement, il est malgré tout sympa. Il aime parler avec les gens, mais le problème, c'est que ça finit toujours en catastrophe. Et dans cet appartement, dans une cité populaire, ceux qui sont autour, qui ont le même âge que lui, profitent de la situation. Et son appartement est investi tous les soirs. Et en particulier, une des personnes qui vient là, c'était pour le faire dealer, transporter de la drogue surtout.
Oui.
Mais heureusement que cet homme-là, ce trafic, enfin, on ne peut pas dire un trafiquant, ce n'est pas ce niveau-là, c'est le plus bas, mais...
Revendeur,
voilà, pour tester, pour voir s'il est capable de le faire, lui a donné effectivement deux sacs, mais ils sont pleins de sucre. Et heureusement pour lui.
Oui, parce qu'il se fait arrêter tout de suite.
Oui. Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire du film, c'est qu'il passe de victime de sa maladie,
voilà.
Et grâce à celui qui l'a embauché, en disant « Mais ça, il faut que tu le dises. » Il faut que tu dises aux gens pourquoi...
Tu assumes ta maladie, tu expliques ce qu'est ta maladie.
Et progressivement, il anime des rencontres.
Bah, il se socialise, quoi.
Il explique ce qu'est sa maladie.
Ouais. Mais il va devenir une sorte d'activiste, en fait.
Voilà.
Pour faire connaître cette maladie.
Donc, dans le film, il y a aussi cette part de... Les malades peuvent témoigner de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. Et c'est un rôle social extrêmement important.
C'est justement là, on en revient à la mise en scène, ce qui pourrait être, je parlais de pathos, un peu larmoyant, c'est quand il fait justement ses premières réunions et que les familles viennent avec leurs enfants atteints du syndrome de Gilles de la Tourette, et il y a tous les âges.
Absolument.
Et les familles sont en périphérie dans cette salle des fêtes où ils travaillent.
Oui.
Et on les voit tous au milieu, ces enfants, ces jeunes gens, parler, et c'est terrible, ça fuse, ça part dans tous les sens. Et lui les invite à se libérer, comprendre.
Ici, et vous n'êtes pas la minorité, il leur dit. Ici, vous n'êtes pas la minorité.
Exactement. Oui. Et les parents, à ce moment-là, ont une autre vision de leur enfant. Et c'est ce qui est remarquable aussi, pour ceux qui en souffrent et pour ceux qui sont à côté d'eux.
Et il y a le même effet, je dirais, pour les spectateurs du film.
Exactement.
Je suis sûr que...
Quand on regarde, on est mal à l'aise par moment, évidemment.
Oui, il y a de quoi.
On a mal pour les autres. On sait, quand on voit une scène arriver, on voit malheureusement ce qui va se passer et on sait que les gens ne vont pas comprendre. Ça va lui retomber dessus. Par moment, c'est très violent. Hein. Mm-hmm. Ça ne nous est pas épargné quand il est battu quasiment à mort, là, de fer.
C'est dur. Hein.
C'est très, très dur. Et on sait que ça s'est passé comme ça.
Mmh.
C'est pour ça que c'est encore plus dur, parce qu'on sait que ça s'est passé comme ça.
Oui.
C'est pas inventé, ça.
Le film est directement fidèle.
Moi, je me rappelle l'Écosse des années 80, il y avait des bandes de voyous comme ça qui circulaient dans les rues à tard le soir. Il valait mieux pas les croiser, quand même. Hein. Ce qui se termine bien, c'est qu'on le voit, il va être décoré pour son action, justement.
L'éducation.
Voilà, d'éducation, il va être décoré par la reine. Et puis, il y a une petite piste d'espoir aussi à la fin, c'est que c'est pas un traitement qui arrive, mais par stimulation, je crois, électrique du nerf médian, on arrive à les calmer, si on peut dire, et à faire qu'ils puissent, en tout cas pendant
rester calme et serein,
à tel point qu'on le voit rentrer pour la première fois dans une bibliothèque où il n'osait jamais aller avant, en sachant ce qui risquait d'arriver, bien sûr.
Oui, en tout cas, ça espace les moments, les crises, oui. On peut appeler ça. Alors, une dernière chose qui est remarquable, on parle de la qualité de l'interprétation qui repose sur Robert Aramayo, qui joue le rôle de John Davidson, et Maxine Peake, Dottie Achenbach, mais les seconds rôles sont remarquables.
Le jeune adolescent qui joue John, magnifique, formidable.
Scott Ellis Watson.
Oui. Très bien.
Donc tout est bien pensé, bien mis en scène, le casting a été remarquable, tout va très bien dans cette histoire et le fil de l'histoire se déroule.
C'est très fluide, bien dirigé par le réalisateur. Une chose tout de même, moi qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'à la fin on voit le vrai John Davidson, donc il y a des images vraiment d'aujourd'hui, on le voit quand il est décoré, on le voit s'exprimer face caméra. Dans la mesure où l'interprétation était très bonne, je ne suis pas certain qu'il fallait faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul ?
Oui, je crois
même
que
si
le film,
c'est bien pour John Davidson lui-même, bien sûr.
Oui. Mais ça dit quelque chose aussi du projet du réalisateur. C'est-à-dire qu'il a beaucoup collaboré avec lui et il voulait qu'il soit dans le film, pas simplement l'histoire que lui raconte.
Oui, mais somme toute, c'est finalement assez fréquent dans les films qui sont d'après une histoire vraie, qu'on voit les personnages qu'on découvre dans le film, et les vrais à la fin, qu'ils soient vivants ou décédés.
Spike Lee avait fait ça pour Malcolm X, je me rappelle très bien.
C'est pas toujours utile, très réussi, mais enfin c'est une façon de rendre hommage aussi à ces personnes.
Alors pour l'anecdote et pour terminer, John Davidson, récemment, il y a quelques temps, le film a été récompensé au BAFTA, là, c'est une grande cérémonie du cinéma au Royaume-Uni. À un moment donné, il y a une remise de prix à deux autres acteurs pour un autre film. Et il n'a pas pu s'empêcher de lancer des insultes racistes.
Ben oui.
Sa maladie qui s'exprimait à ce moment-là.
Continue.
Bon, non, mais c'est pour vous dire que c'est une réalité encore aujourd'hui pour lui. Il vit ça encore au quotidien.
Ben oui. C'est pas une histoire à l'eau de rose.
Non, pas du tout même. Inutile de préciser que nous vous conseillons d'aller découvrir Plus fort que moi. Film, c'est dans le titre d'ailleurs, très fort, très émouvant. Vous pouvez le voir à l'ABC à Toulouse ou dans la plupart des salles de cinéma de notre région. Je rappelle aussi que vous pouvez rencontrer Paul et Louis-Marie mardi prochain, le 28 avril, lors du Ciné-Parole qu'ils animent à l'ABC, après la projection qui commence à 14h30. Quelques minutes de pause maintenant avant de revenir sur Le procès de Jeanne d'Arc, film tourné en 1962 par Robert Bresson. Et pour cette pause musicale, j'ai choisi de vous faire écouter le concerto pour violon numéro 3 en sol majeur de Mozart, qui, dit-on, c'est fortement soupçonné, aurait pu souffrir lui-même du syndrome de Gilles de la Tourette. C'est en tout cas ce que les lettres qu'il a écrites et les témoignages de ses proches peuvent laisser entendre. On écoute le premier mouvement Allegro, joué ici par le violoniste suédois Daniel Lozakovic. Thank you.
Présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous revoici à l'antenne. Je suis toujours en compagnie de Paul Dima, intervenant cinéma pour les Coteaux Païs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et de Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Pour la seconde partie de l'émission, nous allons donc revenir sur le procès de Jeanne d'Arc, film réalisé par Robert Bresson en 1962 avec Florence Delay dans le rôle de la Pucelle d'Orléans. Bresson est à l'époque le grand cinéaste chrétien que l'on sait, admiré de tous. Il a 60 ans et de nombreux films à son actif. Là, il réalise un long métrage d'à peine une heure consacré uniquement au procès de son début à la sentence et à la mort de Jeanne sur le bûcher, et il s'inspire des documents historiques racontant son déroulement et qui rapportent donc les paroles de l'accusé et de ses accusateurs, l'évêque Cochon en tête. Paul et Louis-Marie, je ne sais pas si vous l'avez revu pour cette émission, mais quels souvenirs et quelles impressions avez-vous conservé de ce film?
Le plus impressionnant, je trouve, dans le film, c'est le travail sur le son. Le son à la fois qui prend une place particulièrement importante pour décrire ce que vit Jeanne d'Arc à la fin de sa vie, puisqu'elle est enfermée en prison avec des chaînes aux pieds, et tout ça est retranscrit de façon sonore. Alors j'allais dire musical, c'est pas musical, mais toujours est-il qu'il y a le bruit des portes, de ces grandes portes en fer, le bruit des chaînes par terre, le souffle de la respiration, hein, tout est là, ces moments du procès où on reste en suspens entre les questions, les réponses, puisque le procès de toute façon est mené à charge et elle n'aura aucune chance de s'en sortir. Hein. D'ailleurs, c'est l'objectif, c'est de faire un procès. Je crois que c'est Jean Guiton qui l'a souligné dans un de ses ouvrages, puisqu'on a les minutes du procès, oui. Et ils étaient de remarquables juristes, ceux qui ont jugé Jeanne d'Arc, et ils ont fait en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de faille et donc puisse pas y avoir de procès en révision. Donc elle était condamnée d'avance.
Alors ce qu'on voit dès le générique, et c'est Bresson qui l'annonce, hein, c'est qu'il s'est servi justement des minutes du procès, puis des dépositions et témoignages du procès en réhabilitation, oui, qui est survenu 25 ans plus tard, et donc surtout pour les derniers instants de Jeanne. Paul.
D'ailleurs, c'est la mère de Jeanne d'Arc qui vient à Paris, à Notre-Dame, trouver les prélats assemblés pour faire une requête pour la révision du procès de sa fille. Et ça aussi, il y a des écrits qui en attestent.
Ça s'appuie vraiment sur des documents d'époque tout à fait avérés. Il n'y a aucun doute sur les sources utilisées.
Donc ce préambule dit bien de quel type de procès il s'agit. En même temps, il y a une grande rigueur. Et Jeanne elle-même reconnaissait leurs compétences. Mais c'était un jugement à charge. C'est-à-dire qu'il fallait non seulement qu'elle soit condamnée, mais que les arguments soient irréfutables. C'est-à-dire qu'elle méritait la mort. Et juridiquement, ça se défend.
Moralement, ce sont surtout les Anglais qui veulent sa peau. Hein,
c'est clair. C'est les Anglais
On les entend la traiter de sorcière tout au long du film.
Oui. Elle a été trahie, et complètement ignorée. Enfin, le but, c'est de la faire mourir dans les règles juridiques. Et le film traduit ça aussi par, c'est un film qui est bref, une heure, qui s'appuie donc sur les minutes du procès et qui se fait à un rythme très rapide.
Alors ça, c'est une des caractéristiques du film, c'est que tous les dialogues, c'est du tac au tac.
Du tac au tac.
Il n'y a pas de pathos, on ne ricane pas, les accusateurs posent des questions, elle répond et ça rebondit tout de suite. Il y a très peu de silence.
C'est du champ contre champ et en deux lieux. Le lieu du tribunal et le lieu de la cellule. Voilà.
Ce qui est remarquable, c'est qu'il faut repenser que Jeanne d'Arc, en fait, était toute jeune, c'était une enfant.
Et oui.
Finalement, on a condamné une enfant, on l'a brûlée pour sorcellerie, puisque le jugement a porté sur le fait qu'elle était une sorcière et ce qu'elle racontait, c'était complètement fou. C'était du mensonge, c'était fou. Donc, elle a fini sur le bûcher. Elle était aussi donc toute jeune, mais inculte. Illettré, et elle arrivait à tenir tête à ces hommes qui, eux, ne l'étaient pas du tout, inculte et illettré. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, c'était la force de sa faiblesse. Et avec un aplomb même, elle répond à l'évêque qui l'interroge.
Elle est même impudente, pour ne pas dire insolente.
Elle ne se laisse pas faire. Alors, il y a des moments d'encouragement, il y a des... On voit tout
Surtout dans sa cellule, on voit effectivement qu'elle a des moments où c'est très...
Oui, c'est très dur. Et puis, le seul de la cellule, elle a beau écouter les voix qui l'apaisent d'une certaine façon, ou qui la confortent dans la voie qu'elle suit, il n'empêche que c'est une épreuve terrible pour elle, à la fois morale et physique, parce que c'est pas une partie de plaisir, hein, quand même. Elle est enchaînée, elle a les pieds...
Elle mange de la très mauvaise nourriture, évidemment.
On cherche à l'empoisonner, d'ailleurs, enfin l'intoxiquer au moins par un poisson
qui est pour le moins avarié. c'est la moindre des choses qu'on puisse dire.
Oui. Et puis, elle est accusée de pervertir la religion, que ses voix, c'est n'importe quoi. On essaie de la prendre en défaut, de se renier. C'est-à-dire que c'est une tactique des interrogatoires qui ont pour but qu'à la fin, la personne ne sait plus ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Il est en train de se contredire.
Ce n'est pas ce que vous avez dit.
Et à ce moment-là, alors, elle dit, ce n'est pas ce que j'ai dit.
Oui, à chaque fois qu'on essaie de lui faire dire quelque chose qu'elle avait dit, non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
Et ça, je ne vous le dirai pas.
Oui. Alors, parfois, elle refuse de répondre. Oui, oui. Lorsqu'on lui dit, mais qu'est-ce que vous a dit Sainte Catherine, que vous a dit l'archange
Marguerite,
Michel, que vous a dit Sainte Marguerite. Ça, je ne peux pas vous le dire.
Je ne vous le dirai pas.
Ça ne regarde que moi et Dieu. Enfin, je ne sais plus comment elle tourne les choses. Il y a un truc aussi, c'est que Bresson fait que le tribunal n'est pas agressif avec elle.
Non. Non,
on ne cherche pas à l'humilier. Même ils disent, et on peut les croire sincères, qu'ils veulent surtout sauver son âme de pécheresse. Donc l'amener à se repentir en quelque sorte.
Oui, oui.
Ce sont les Anglais qui poussent derrière. Parce que eux ne veulent pas, les Français, ne veulent pas forcément l'envoyer au bûcher.
Oui.
Et eux, ils ne veulent pas l'envoyer au bûcher.
Oui.
Ce sont les Anglais qui y tiennent absolument.
Oui.
C'est une sorcière, elle est accoquinée au diable, elle doit mourir.
Et elle est constamment maltraitée, alors qu'elle est quand même en prison. On n'a pas besoin de la maltraiter un peu plus, mais dans...
Oui, elle n'est pas humiliée au tribunal, mais effectivement, elle est plus...
Oui, parce qu'il y a aussi la vérification de la virginité.
Il y a le rapport au féminin aussi, qui est important. Elle garde un costume d'homme.
Oui.
Une tenue d'homme.
Oui.
Un costume, c'est beaucoup dire. Et ça, c'est... inacceptable. C'est un transgenre, pour prendre un mot contemporain, mais c'est une insulte à la création et une femme ne doit pas s'habiller en homme. Et c'est un des motifs aussi qui concourt à la condamner.
Et alors ce qui est fort, c'est entre ces moments où elle est interrogée par les juges du tribunal, ces scènes sont très précises, tac au tac, vous l'avez dit, et c'est entrecoupé justement par des scènes d'entrée, de sortie du tribunal, et je repense au son, le bruit des clés, et puis les geôliers qui, pour le moins, la regardent, pensent à autre chose en la regardant.
Oui, et puis on voit bien, il y a des trous dans le mur de la cellule, et on voit les yeux...
Des Anglais
qui
la scrutent.
Oui.
Et qui la traite de sorcière. Bon, le cinéma de Bresson, bon, on sait, il y en a certains qui vous diront que c'est sec, que c'est extrêmement dépouillé. Et le fait est que là, il n'y a pas d'effet de voix, il n'y a pas d'effet d'acteur, pas d'expressivité, il n'y a pas de théâtre, surtout pas, parce que Bresson détestait ça.
Oui.
L'assistance, même quand on voit les gens dans l'assistance, sont figés, vraiment complètement figés, pas vraiment de réaction sur les visages. Et ça contraste terriblement avec le Jeanne d'Arc de Karl Dreyer, qui lui en plus était muet, effectivement, qui lui est hyper expressif.
Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas le son pour,
non, mais c'est ça, c'est muet.
Pour donner encore plus de force à son film. Mais effectivement, c'est ce côté un peu clinique, finalement, de la description. Elle est jugée et on sait qu'on arrivera à la condamnation à la fin et c'est inéluctable. Et ce qui est très beau aussi, c'est la fin.
Ah oui, la magnifique séquence.
Où elle...
un travelling arrière, ses pieds.
Elle trottine d'une certaine façon. Elle a une démarche de
geisha.
Elle est entravée.
Donc elle fait des tout petits pas. Tac, tac.
Oui, c'est ça. Et puis il y a un chien.
Un chien
qui la suit. C'est assez extraordinaire.
Ah, le chien, on peut lui prêter... Qu'est-ce que c'est que ce chien? C'est peut-être un ange, le chien.
Et puis il y a la foule, mais la foule, on voit que les pieds aussi de la foule.
On voit que les pieds.
C'est tout dans les images, ces images très épurées, le son, tout est là.
Très épuré aussi le supplice, c'est-à-dire qu'on voit les fagots qui s'entassent et le feu qui est mis au fagot. Et puis la fumée.
Elle disparaît derrière la fumée.
Elle disparaît derrière la fumée. Et après, on voit
seulement la croix que montrent
le poteau auquel elle est liée, qui est complètement calciné.
Et il n'y a plus rien.
Voilà.
On voit la fumée qui recouvre la croix. Bon, c'est son âme. On peut penser que c'est son âme qui monte au ciel. Mais...
Bresson n'est pas le seul à avoir fait quelque chose sur le jugement de Jeanne d'Arc. Et Otto Preminger, qui avait fait une version
quelques années avant, oui.
En 57, dira à Bresson, après avoir vu son film, je cite, « Nous avons chacun notre Jeanne, la vôtre est la plus belle et classe. »
Oui, 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 oui. Bresson, quand il se confrontait à des thèmes chrétiens en général,
oui.
Et puis c'est resté très longtemps après un modèle pour beaucoup, beaucoup de cinéastes,
tout
la Nouvelle
fait.
Vague, entre autres.
Oui.
Mais aussi quelqu'un comme Tarkovski, hein, il parlait beaucoup de sa dette à l'égard de Bresson. Alors, puisque vous parlez de Robert Bresson, je voudrais qu'on l'écoute. Hein. Je vais vous faire écouter une interview, un extrait plutôt d'une interview qu'il avait donnée peu après la sortie du film. Il parle de la manière dont il l'a conçue, de la façon dont il voit Jeanne d'Arc, la personne qu'elle était, et de sa rencontre et du choix de Florence Delay pour ce rôle.
Robert Bresson, vous venez de terminer Procès de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas la première fois qu'un film est consacré à Jeanne d'Arc. Il y en a eu beaucoup. Le dernier en date était signé de Tobrebinger. Si vous avez voulu en faire un vous-même, est-ce que c'est parce que vous pensez que les autres n'avaient pas abordé le sujet comme il devait l'être, ou bien est-ce que c'est pour une autre raison?
Je pense que Jeanne d'Arc est un trésor inépuisable. Mais il y avait une raison aussi pour laquelle Jeanne d'Arc m'avait beaucoup attiré pour un film, c'est que j'avais l'espoir de la rendre actuelle. On se trompe si on voit Jeanne comme la petite paysanne que la légende a faite. Je pense qu'elle était très élégante. Les témoins, les gens du temps l'ont dit. Je la vois tout à fait comme une jeune fille de maintenant.
Et votre héroïne, comment l'avez-vous trouvée?
Le hasard, qui tout de même nous aide souvent. Une amie de Florence Delay a eu la gentillesse de l'amener chez moi un jour. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait une grande concordance entre elle et la Jeanne d'Arc que j'avais en vue.
C'est-à-dire la Jeanne d'Arc telle que vous imaginez qu'elle a existé et qu'elle était. Florence Delay n'est pas une actrice, et d'ailleurs coutumier chez vous de ne pas employer de comédiens professionnels.
C'est une habitude parce que je pense que le théâtre n'est pas le cinéma n'est pas le théâtre, que dans un film, il faut croire au personnage et non pas croire tantôt à l'acteur, tantôt au personnage, et qu'un acteur est quelqu'un qui se cache continuellement derrière son jeu, derrière son art, comme il se cacherait derrière un paravent.
Robert Bresson, donc, 1962, il a été interrogé par un journaliste que je n'ai pas réussi à identifier. Peu importe, une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre.
C'est cette volonté et de faire de sa Jeanne d'Arc un personnage contemporain de l'époque où il a tourné. C'est-à-dire c'était au début des années 1962. Et il souligne qu'il voulait montrer que les préoccupations de Jeanne pouvaient être voisines de celles qu'elle aurait eues si elle avait vécu en 62.
Il choisit Florence Delay, bon, qui, comme lui, et comme certainement l'ami qui l'avait amené chez lui, était plutôt une cadette de la bourgeoisie intellectuelle, hein, puisque c'était la fille, la grande neurologue, Jean Delay, et elle-même une intellectuelle. Bon, elle sera plus tard écrivain, académicienne française. On a même eu la chance de l'avoir à Radio Présence. J'ai croisé Florence Delay. Je veux dire, ça fait un drôle d'effet de croiser la Jeanne d'Arc de Bresson, même si c'était bien longtemps après le tournage du film. Elle est décédée il n'y a même pas un an, hein, en juillet 2025, Florence Delay. Et donc, il prend une jeune fille qui, effectivement, n'a pas l'allure ni même l'élocution d'une paysanne du tout. Hein.
Oui.
Et ce n'est pas une brune, comme on peut imaginer Jeanne d'Arc. Elle est blonde, elle a les yeux bleus, c'est une très jolie jeune femme.
Alors, c'est un film en noir et blanc, on ne voit pas vraiment le bleu de ses yeux.
On voit qu'elle a les yeux clairs, quand même.
Mais hein. Oui, tout à fait. Et je trouve très intéressant ce choix qu'a fait Bresson, qui tranche complètement avec l'imagerie populaire et la statuaire populaire
oui.
de Jeanne d'Arc.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec ses représentations en cuirasse, avec le côté guerrier et tout. On est ailleurs. C'est un procès où se trouve la vérité. Du côté des juges ou du côté de l'accusé? Eh bien, on repart avec cette question-là. La vérité est plus subtile que simplement les minutes d'un procès.
Il disait justement à propos, il le dit d'ailleurs dans cette interview, que le théâtre est antinaturel et le cinématographe ne doit pas être du théâtre. Quand même, il était très particulier, Bresson.
Oui.
Il disait que nos gestes, nos membres sont autonomes, même que nos paroles précèdent la pensée. Mm-hmm. Très étrange hein, comme conception. Et c'est pour ça qu'il aimait prendre des comédiens non professionnels. Parce que dans le théâtre, on pense le geste ou la parole avant même de la faire. Pour lui, cinéma, ça doit être l'inverse.
En même temps,
et la plupart des acteurs qui l'utilisaient, c'était une fois. Hein.
Oui.
Oui. Et en même temps, il était très très rigoureux sur la diction, sur le rythme, sur
le
ton,
clair, hein.
Sur, mais avec des acteurs non professionnels,
oui,
effectivement.
Oui. Ce fait que ce soit du tac au tac comme ça, on dirait des gens qui récitent un peu leur texte, et il n'y a pas le temps, il n'y a pas de pathos, surtout pas.
Ah,
on ne fait pas d'effet de voix, pas de mimique, pas d'expression du visage, que le texte, la parole,
ouais.
Rien de plus.
rien n'est accentué, même avec la musique. Ah, c'est oui. pas
non,
souligné.
Non, non, non.
Ou surligné, même.
Musique qui est signée Francis Seyrig, le frère de l'actrice Delphine Seyrig. J'ai découvert ça en préparant le film, bah oui, qui avait été un élève d'Olivier Messiaen. On ne peut pas dire que la musique soit omniprésente dans le film.
Non, elle est même plutôt martiale.
Voilà. Mais oui, ça, c'est, après tout, bah, c'était un soldat, hein, oui. l'arc avant tout. Hein. Voilà, bon, écoutez, on va conclure cette émission là-dessus. Moi, vraiment, je conseille à tous ceux qui le peuvent d'aller... d'aller voir Le procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, parce que c'est aussi une leçon de cinéma en passant. Hein.
Ah, oui, c'est le... complètement. Et puis c'est un film court, vous l'avez souligné.
Oui, voilà. Donc si vous voulez le voir, ça ne va pas vous prendre trop de temps non plus. Il est temps de conclure cette émission. Merci à tous les deux d'en avoir été les invités. Je rappelle que le Ciné-Parole, que vous animez mardi prochain à l'ABC, le 28 avril, est dédié à Plus fort que moi, le beau film de Kirk Jones. Votre échange avec le public a lieu à l'issue de la projection. Celle-ci commence à 14h30. Je rappelle aussi à nos auditeurs cinéphiles, le rendez-vous chaque mercredi à 19h, en direct sur Radio Présence avec N'oubliez pas l'ouvreuse, l'excellente émission de Louis-Marie Solaire. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.